Bonjour chers enseignants, je suis M. Mani Rafi Darson, formateur en psychopédagogie de l'INFP. Aujourd'hui, nous allons parler du développement morphologique et moteur chez l'enfant et l'adolescent. Mais avant d'entrer en détail, il serait préférable de se bien préparer, de vous installer confortablement et je vous invite à prendre des notes. On va essayer de diviser notre formation d'aujourd'hui en deux grandes parties. Dans la première partie, on va parler du développement morphologique. Et dans la deuxième partie, on va se préciser sur le développement sensorimoteur. Est-ce que vous êtes prêts, chers enseignants? Alors, lorsqu'on parle de développement morphologique, on parle de développement physique. Et par développement physique, il est question de croissance et de transformation physique. Le développement physique de l'enfant est décrit par une succession de phases dès sa conception jusqu'à sa mort. Durant l'enfance, et jusqu'à l'âge adulte, le changement physique le plus frappant est la différence de proportion entre la tête et le reste du corps. La tête représente un quart de la hauteur du nouveau-né et passe à un cinquième à l'âge de 2 ans et un sixième à 6 ans et un septième à 12 ans, pour atteindre un huitième de la tête totale à 25 ans. La puberté aussi est une période de changement physique remarquable. Elle est déclenchée par le système endocrinien en deux étapes, l'adrénarche ou maturation des glandes surrénales, puis la gonadarche ou maturation des glandes sexuelles. La puberté est le processus qui permet à l'individu d'arriver à maturité sexuellement. La taille et le poids croissent rapidement. La poussée de croissance pubertaire est plus précoce chez les filles qui atteignent leur taille adulte vers 15 ans et chez le garçon vers 17 ans. Des changements d'humeur et une émotivité accrue pendant cette période peuvent être attribués à ces changements physiques d'ordre hormonal. Ainsi, les symptômes dépressifs chez les filles augmentent au fur et à mesure que la puberté progresse. Mais il y a aussi de nombreux autres troubles psychiatriques qui émergent à l'adolescence. Je crois que tout cela vous est déjà communiqué ultérieurement. Alors, passons au développement du cerveau et du système nerveux. Chez le jeune enfant, dans le cortex cérébral, les parties sensorielles et motrices se développent en premier. Leur maturation est achevée vers l'âge de 6 mois. La densité des synapses dans le cortex frontal atteint son apogée vers l'âge de 4 ans. Le corps calleux, réseau de fibres reliant les hémisphères droite et gauche, est myélisé progressivement, ce qui permet une transmission de plus en plus rapide des informations et une meilleure intégration des informations. un processus qui se poursuit jusqu'à l'âge de 15 ans. De 3 à 6 ans, la croissance la plus rapide du cerveau se produit dans les régions frontales, responsables de l'organisation et de la planification. À 6 ans, le cerveau possède 95% de son volume maximal. De 6 ans à l'âge adulte, la densité de la matière grise dans le cortex atteint son maximum pendant l'enfance, puis diminue en raison des vides laissés par les neurones. Les pertes en densité de la matière grise ne sont pas uniformes, mais affectent des régions du cortex à différents âges. Ainsi, la densité de matière grise dans les lobes frontaux, siège des fonctions exécutives, est maximale chez les filles vers 11 ans et chez les garçons vers 12 ans. Dans les lobes temporaux, cette densité maximale est atteinte à 16 ans chez les filles et les garçons. Tandis que la matière grise augmente, puis réduit en densité, la matière blanche ou substance blanche augmente de manière constante. La matière blanche permet la transmission de l'information entre les neurones. Vous y êtes encore, chers enseignants? Alors, on va entrer dans la deuxième partie de notre formation, qui est le développement psychomoteur. On ne peut pas séparer le mouvement moteur avec le développement du cerveau, car c'est ce dernier qui conduit et dirige tous nos mouvements, que ce soit inné ou acquis. Le développement psychomoteur peut se diviser en 4 stades. Premier stade, le stade sensorimoteur. Dès la naissance, à l'âge de 2 ans, c'est le stade de contact avec le monde par l'intermédiaire des sens et des actions. Regarder, toucher, porter à la bouche. Dans le stade sensorimoteur, les actions réflexes du bébé assimilent de nouvelles informations à partir de son propre corps, d'objets ou de personnes, entraînant des réactions circulaires où le bébé cherche, par répétition, à retrouver les résultats de son action. Le but pour l'enfant de cette période est d'apprendre à coordonner les activités motrices, la perception de soi et du monde par les activités sensorielles. Avant l'âge de 8 mois, selon Piaget, il manque aux enfants la notion de permanence de l'objet, c'est-à-dire la conscience, du fait que les objets continuent d'exister lorsqu'ils ne les voient pas. À partir de 8 mois, les enfants commencent à manifester un souvenir des choses qu'ils ne voient plus. L'enfant s'éloigne progressivement de l'action pour entrer dans la représentation mentale. C'est la transition entre l'intelligence sensorimotrice et l'intelligence représentative. Dans le deuxième stade, c'est le stade préopératoire. De 2 à 6 ans, c'est le stade de la représentation des choses avec des mots ou des images, mais absence de raisonnement logique. L'enfant se détache de la perception immédiate. Chaque objet est représenté, c'est-à-dire qu'il peut être mentalement évoqué en son absence. La fonction symbolique se développe, langage, jeu ou dessin. Les souvenirs du passé et les projets futurs s'ajoutent au présent. Cette période se divise en deux phases. La pensée préconceptuelle, de 2 ans à 4 ans ou 5 ans, et la phase intuitive, de 4-5 ans à 6 à 7 ans. La pensée préconceptuelle, par exemple, pour un enfant de 5 ans, la qualité de lait qui est trop importante dans un verre étroit et haut peut devenir une quantité acceptable si elle est versée dans un verre bas et large. C'est parce que l'enfant se focalise uniquement sur la hauteur et est incapable d'exécuter l'opération consistant à renverser mentalement dans l'autre verre. L'enfant ne possède pas le concept de conservation, le principe selon lequel la quantité demeure la même en dépit du changement de forme. La pensée intuitive. C'est au moment de la pensée intuitive que l'enfant commence à coordonner les différentes données de l'expérience et à résoudre des problèmes à plus d'une dimension. Cette coordination conduira l'enfant dans la phase symbolique ou préconceptuelle au seuil des opérations. Je pense que tout est un peu clair. Alors, passons au stade suivant. Le troisième stade, c'est le stade des opérations concrètes à l'âge de 7 à 11 ans. C'est dans ce stade que l'enfant développe la pensée logique à propos d'événements concrets, compréhension d'analogies concrètes, exécution des opérations arithmétiques. À partir de manipulations concrètes, l'enfant peut acquérir des raisonnements comme les notions de réversibilité d'une opération, de conservation des mesures. Par exemple, à l'âge de 11 ans, les enfants peuvent mentalement verser le lait successivement dans des récipients de formes différentes. Ils réalisent à ce stade qu'un changement de forme ne signifie pas un changement de quantité. Quatrième stade, le stade des opérations formelles. À l'âge de 12 ans et plus, c'est le stade de raisonnement abstrait. La pensée peut se dégager du contenu concret face à un problème à résoudre. L'adolescent peut faire des propositions hypothétiques et en déduire les conséquences. Si ceci, alors cela. C'est le raisonnement hypothético-déductif, avec maniement des concepts abstraits. Le raisonnement se développe du niveau purement concret, impliquant l'expérience vécue, jusqu'à aboutir à la pensée abstraite, mettant en jeu des réalités imaginées et des symboles. Je pense que tout ce que nous venons de dire tout à l'heure vous sera utile un de ces jours lors de vos pratiques de classe. Mais avant de se quitter, j'aimerais vous faire part de ces quelques points essentiels. La période de l'intelligence sensorimotrice correspond aux deux premières années de la vie. Elle comporte le stade des réflexes, de l'organisation, des perceptions et des habitudes motrices, avec les premières tendances intuitives et instinctives, sensation de faim, par exemple. L'enfant commence à se fixer sur les personnes de son entourage. L'intelligence est purement pratique et s'appuie sur les perceptions et les mouvements. Deuxième point, la période de l'intelligence intuitive. Elle couvre la formation du langage entre 2 et 4 ans. L'enfant commence à évoquer le signifié, objet, action, sentiment, concept, à partir du signifiant, mot, geste, jeu ou dessin. L'enfant développe ses sentiments, ses rapports avec les adultes. L'enfant agit en fonction de son intérêt. La période des opérations intellectuelles concrètes, de 7 ans à 12 ans, elle est marquée par l'accès aux notions, longueur, largeur, épaisseur d'un objet, c'est-à-dire la capacité à effectuer des groupements. À cette époque, apparaissent les sentiments de justice. L'enfant accorde une meilleure attention au travail scolaire et sa collaboration effective à une tâche proposée au groupe. Dernier point, la période des opérations formelles. À partir de 12 ans, les opérations peuvent porter sur les contenus abstraits, sur les énoncés verbaux. L'intelligence tend vers une forme d'achèvement presque terminée. Le raisonnement se développe du niveau purement concret à la pensée abstraite. Ça y est, chers enseignants, nous arrivons au terme de notre partage. À la présentation, M. Mani Rafiderson, formateur en psychopédagogie de l'INFP. Merci pour votre écoute attentive. Je vous souhaite d'être en bonne santé et à la prochaine.